Suivez Priorité Santé avec la BICIS, Banque internationale pour le commerce et l'industrie du Sénégal, qui rejoint officiellement le groupe Sounou.
Priorité Santé, Caroline Paré.
Bonjour à toutes et à tous. La solitude peut être désirée, profitable pour faire le point, se détendre, réfléchir, créer. Mais la distance sociale peut, dans certaines circonstances, être subie, perçue comme une impasse, source d'angoisse et même dans certains cas devenir pathologique. Dans un rapport publié il y a 2 ans, l'OMS assimilait la solitude à un problème de santé publique mondiale. Une solitude donc non désirée, détresse d'être seule, ressentie par une forte proportion de personnes âgées dans différentes régions du monde. Solitude pathologique dans le sens où elle devient facteur ou symptôme de troubles psychiques qui peuvent avoir un retentissement en termes de santé mentale comme physique. La solitude est-elle vécue de la même manière par les différentes générations ? C'est vrai que l'on a beaucoup parlé de cette solitude à l'occasion de la crise sanitaire, du confinement, mais au-delà de cette période, avec certains changements comme le télétravail, la popularité grandissante des réseaux sociaux, comment ces mutations ont-elles modifier nos façons de communiquer, de travailler et de nous rencontrer. Dans quelle mesure ces évolutions ont-elles un impact en termes de santé mentale ? Témoignages, questions, nos invités pour répondre aujourd'hui dans Priorité Santé. Épidémie de solitude, l'expression au centre d'un rapport rédigé récemment par l'administrateur de la santé publique aux États-Unis, isolement assimilé à un risque sanitaire qui pèse sur l'espérance de vie, l'impact psychologique de la solitude. On en parle avec vous. Anne-Victoire Rousselet, bonjour.
Bonjour Caroline.
Vous êtes psychologue, psychothérapeute spécialisée en thérapie comportementale et cognitive. Tout à l'heure, on va rejoindre au Togo votre consoeur Jeannette Barma, psychologue clinicienne au CHU Campus de Lomé, également maîtresse de conférences en psychologie clinique et psychopathologie à l'Université de Lomé. Et puis, on va aussi donner la parole à une illustratrice, autrice, Marguerite Boulanger. Elle a signé un livre qui aborde ce sujet du lien, des rencontres, du regard sur les solitudes au pluriel. Un grand livre en couleur BD qui s'intitule « Vis-à-vis ». Il est publié aux éditions Hachette Pratique. Et puis, en fin d'émission, on va retrouver la chronique sexualité du docteur Catherine Solano, sexologue.
Priorité santé sur RFI.
Anne-Victoire Rousselet, cette problématique de la solitude en santé mentale, est-ce que c'est quelque chose de nouveau qu'on raccroche même à la période de la crise sanitaire du Covid ? Ou est-ce que lorsqu'on travaille, comme vous, sur les troubles psychiques, eh bien cette question du lien social, c'est vraiment un fondamental, c'est une notion importante de longue date ?
C'est absolument pas nouveau. Mmh. C'est quelque chose qu'on connaît bien quand on traite les pathologies mentales psychiatriques. Aujourd'hui, ça s'est majoré. On en parle beaucoup plus depuis la crise sanitaire. Mais en réalité, c'est quelque chose qu'on connaît bien. Alors, on peut le lier aussi à une société qui évolue aussi avec beaucoup plus de travail à distance, avec beaucoup plus d'écrans, beaucoup plus de distractions qu'on peut avoir seul. Et donc, on peut associer ça finalement aussi à un fonctionnement général, global de la société.
C'est vrai que cette solitude, elle a plusieurs visages. Il y a des gens pour qui ils vont même dans des retraites de solitude pour se faire du bien. Est-ce qu'on peut parler de solitude choisie, de solitude subie, et même dans certains cas, on va dire, une solitude qui peut même être curative pour faire baisser la pression ?
Évidemment. Évidemment, c'est ce besoin de déconnexion aussi, hein, puisque aujourd'hui on est connecté pour tout, pour toutes les activités, y compris entre guillemets, de contraintes, de payer ses impôts, de faire toutes ces démarches administratives. On est hyper connecté, hyper sollicité avec les réseaux sociaux. Et donc on a un besoin aussi juste d'arrêter un peu ce flot pour retrouver le flot de sa propre pensée et se recentrer sur des choses qui nous paraissent un peu plus essentielles, c'est-à-dire de faire ce point qu'on arrivait davantage à faire plus facilement quand les rythmes étaient un peu moins denses et qu'on n'était pas en permanence connecté. Donc cet arrêt est fondamental. Beaucoup de gens arrivent à le faire sans ces retraites-là, avec des vacances, avec des soirées, de la lecture, des activités en effet choisies. Mais d'autres subissent davantage cette dérive sociétale qu'on évoquait.
Alors c'est vrai que la solitude dans ces cas-là, quand elle est subie, elle est à la fois facteur et symptôme parce que dans certaines pathologies, plus le repli sur soi est confirmé fort, plus il y a de quoi aussi s'inquiéter.
Oui, Oui, c'est-à-dire que évidemment, on a besoin de ces moments de solitude, de repli un peu stratégique pour se recentrer sur soi. Mais quand c'est pas choisi, quand c'est subi, comme vous l'évoquez, ça entraîne un mal-être, ça entraîne un sentiment de discrimination, de stigmatisation, d'être hors du monde, et finalement une souffrance qui est liée au sentiment de pas être comme les autres, d'être différent et de pas pouvoir s'intégrer.
Et c'est vrai que quand on va chez le psy, c'est particulièrement vrai pour les enfants. Pour les ados, il y a cette question, est-ce que tu as des amis? Est-ce qu'il y a beaucoup de monde autour de toi? Ou est-ce que tu es plutôt tout seul, replié dans ta chambre?
C'est systématique, ça participe à notre évaluation, parce que ça nous dit aussi beaucoup de choses de la façon dont on gère les émotions, de la façon dont on est à l'aise avec l'autre. Et on sait qu'il y a différents stades de développement chez l'enfant, chez l'adolescent, chez l'adulte, et que à certains moments, la solitude, l'isolement, le jeu seul, par exemple, de jouer seul, c'est important dans certains stades de développement. Et puis après, il y a le jeu avec les pairs, et c'est aussi un stade important de développement qui doit être intégré progressivement par l'enfant. Donc ça nous permet aussi de positionner le curseur et de savoir où en est l'enfant, l'ado, l'adulte dans son développement et dans son fonctionnement.
Solitude santé publique, vraiment, dans un pays comme le Japon, le gouvernement compte un ministre de la solitude, une cellule gouvernementale chargée de la lutte contre la solitude et l'isolement, qui a été mise en place en raison de la forte hausse du nombre de suicides dans l'archipel. Cette problématique, elle touche différents degrés les différentes générations. On s'intéresse en particulier aux jeunes, ça inquiète un jeune tout seul, mais toutes les générations sont concernées. Une illustration tout de suite. Avec un témoignage, c'est celui de Jeanne-Marie. Elle est âgée de 86 ans, elle vit à Paris et se sent très isolée. Depuis un an, elle est accompagnée par l'association Les Petits Frères des Pauvres qui lutte contre l'isolement précisément des personnes âgées. Notre reporter Charlie Dupiau l'a rencontrée chez elle en compagnie de la bénévole qui lui rend visite régulièrement.
Je ne vois jamais personne, ou très peu. C'est-à-dire depuis que je suis revenue vivre à Paris, car avant... J'habitais une superbe propriété à la campagne avec mon mari. Mon mari est décédé de la maladie de Charcot. Ma fille s'est retrouvée en Australie.
Et depuis combien de temps elle vit en Australie?
6 ans. Mais plus le téléphone toutes les 3 semaines, parce qu'avec le décalage horaire, c'est très très compliqué.
Quand est-ce que vous avez perdu votre mari?
Nous avions 70 ans, donc il y a 16 ans.
Et vous avez un seul enfant?
Oui. D'où solitude. Elle est adorable, elle est en Australie.
Et des amis?
Alors, la dernière est décédée il y a 8 jours, 92 ans, avec qui j'allais au théâtre, au cinéma, au café, toutes les expos dans Paris, etc. Alors, c'était très sympa, elle m'appelait tous les matins pour être sûre que j'étais réveillée. Ben oui, parce que on peut... J'ai fait déjà des gros malaises où tout d'un coup je me suis réveillée et évanouie après sur le tapis. Moi, j'ai été habituée à... J'adorais le contact et tout. Puis je viens de perdre l'unique dernière amie, là je vous ai dit, de 92 ans. Il n'y a même pas une semaine, je suis quand même sous le coup. Parce qu'alors là, on sait ce que c'est que le mot solitude. Parce qu'elle et moi, on était tout le temps en rapport par le téléphone. Bon, alors là, il y a un grand vide.
Et qu'est-ce qu'elle sait, votre fille, de votre situation et de votre solitude?
Ah ben si, ça elle sait. Et alors ça a été même tragique. Un jour, elle est tellement inquiète, elle est revenue. Parce qu'elle sentait que ça n'allait pas du tout. Et elle est venue, elle a dit, bon, c'est pas tout ça, on vend l'appart et tu t'en vas en EHPAD. Non, j'ai dit, regarde, j'ai un appartement extrêmement agréable. Non, puis elle se faisait beaucoup de soucis, tandis qu'elle se disait, si je suis en maison de retraite, au moins je saurai que tu peux, si tu te sens mal, il y aura un docteur et tout.
Comment vous vous sentez par rapport à cette solitude?
Ben, y a mieux, parce que j'étais très, très ouverte avec des amis, pas mal d'amis, et puis on sortait tout le temps. Alors, ben, y a la solitude aussi du fait que, physiquement aussi, hein, je pourrais plus faire ce que je faisais. Mais non, j'avais une vie très, très agréable. Je ne sais pas quelle est la personne qui dirait « youpi tralala ». Non, c'est « on fait avec ». Ah ben, la solitude, hein, y a pas le choix, hein.
Est-ce que à un moment, vous avez associé cette solitude à une forme de honte?
De honte, dites. Je trouve que c'est la vie qui est une honte quand elle m'envoie aller à la solitude. Ah ben non, ça, j'ai pas honte de ma solitude. Hein. Alors, j'ai la chance d'avoir les gens du bénévolat, Claire, qui vient toutes les semaines. Moi, je regarde dans mon calepin tous les jours. Est-ce qu'elle vient bien ? Ah oui, elle vient mercredi. Ah, puis tout à l'heure, c'est à 2h, je disais, mais elle vient mercredi, mais à quelle heure ? Ah, 14h30.
Vous étiez contente ?
Ah ben, j'étais ravie.
Alors là, qu'est-ce que vous allez faire aujourd'hui ?
Ah ben, on va voir avec Claire, je ne sais pas très bien. Je ne sais pas, le temps, s'il fait très mauvais, sinon on fera un scrabble. Moi, je n'en ai pas fait depuis la dernière fois, c'était il y a longtemps. Hein.
On peut installer le scrabble ?
Ah ben, oui, ben, ça absolument. Hein.
Un scrabble, c'est un jeu où on doit écrire des mots avec les lettres.
Oui, 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 oui. Puis c'est sympa, on est face à face, on rigole.
Ah. C'est notre jeu préféré à toutes les deux.
Oh, non, rien que d'être assise là, ça y est, je sens que ça dynamise.
Il y a tous les scores. Hein.
Mais ben, on les jette.
Ah ben non, moi j'aime bien garder mes victoires.
Oh ben oui, ça, là, ça, je m'en doute. Hein.
Allez, j'y vais.
Non, mais regardez-moi ça, qu'est-ce qu'elle va encore nous sortir.
Je vous mets zut et j'ai l'aide contre trip sur le 10. Oh,
évidemment. 1, 2, 3, 4.
Pour moi. Claire, depuis combien de temps vous venez voir Jeanne-Marie ?
Ça fait à peu près un an que je me suis engagée avec les petits frères des pauvres et ça fait un an que j'ai eu la chance de rencontrer Jeanne-Marie. Et je cherchais un peu une grand-mère parce que moi j'ai perdu ma dernière l'année dernière et donc je me suis...
Elle avait quel âge ?
Elle avait 92. Et puis j'ai trouvé une super amie à 5 minutes en vélo de chez moi et on fait des choses simples et on s'amuse, on parle. Mais ça nous remplit toutes les deux.
Je me concentre parce que je vais me faire battre.
Ah bah là, oui, vous avez à peu près 20 points d'écart. Hein. Faut envoyer de la lettre.
Témoignage de Jeanne-Marie et Claire avec Charlie Dupiot. Et cette association, Les Petits Frères des Pauvres, parle même de situation de mort sociale pour 530 000 personnes âgées. En France, ça veut dire qu'il n'y a plus d'amis, il y a même plus de contact avec le voisinage, on ne va pas dans les associations, on est vraiment... Tout seul. Et ça, on peut imaginer, Anne-Victoire Rousselet, c'est quelque chose qui va avoir des conséquences non seulement sur la santé mentale, mais aussi sur la santé physique.
Bien entendu, parce que quand vous voyez des amis, vous bougez, vous vous promenez, vous êtes stimulé intellectuellement, vous réfléchissez, vous partagez des émotions positives, négatives. Et donc tout ça, ça entretient non seulement la mécanique cérébrale et le système de neurones, mais ça entretient aussi le mouvement. Donc en vous privant de ce mouvement et de cette stimulation intellectuelle, sociale, vous vous privez de stratégies qui permettent de vous maintenir en fait.
Il y a Diadji qui est au Maroc hein, sur Facebook, qui nous a écrit, il se définit comme casanier depuis 2 ans. Lui qui est sénégalais, il vit donc dans le royaume chérifien, il est en télétravail. Il explique que seules 2 personnes le connaissent, savent où il habite. Et Diadji, il se sent très bien comme ça. Cette solitude épanouie, revendiquée, ça existe ou est-ce qu'on va dire ça cache quelque chose ?
Ça existe, j'en parlais avec un ami il n'y a pas très longtemps qui m'expliquait qui est féru de solitude, il connaît très bien le sujet, il m'expliquait que 10% des solitudes choisies pouvaient être heureuses, très heureuses.
Ça ne veut pas dire qu'on a une maladie sous-jacente, qu'on est asocial ou qu'on va se mettre un qualificatif complètement négatif sur le dos.
Non, c'est un mode de fonctionnement, mais ça ne correspond quand même pas au plus grand nombre.
Ouais, on n'est pas tous des ermites, ça je vous le confirme. Anne-Victoire Rousselet, on va poursuivre cet échange avec des témoignages en direct. On va aussi donner la parole à l'illustratrice Marguerite Boulanger, ainsi qu'à votre consoeur du Togo, Jeannette Barma, sera juste après Al Green, Tired of Being Alone, on le comprend bien, sur RFI.
You love me, yeah, baby. see, baby, I've been thinking about it, yeah. And I've been wanting to get next to you, baby. You see, sometimes I fool moms, I say,
Priorité santé sur RFI, sommes-nous confrontés à une épidémie de solitude ? Dans quelle mesure la distance sociale constitue-t-elle un symptôme ou un facteur de risque en santé mentale ? Toujours avec nous en studio, Anne-Victoire Rousselet, psychologue, psychothérapeute spécialisée en thérapie comportementale et cognitive. Et un témoignage en direct. Pour ça, on part tout de suite en République démocratique du Congo.
RFI à Kisangani, 105 FM.
Landry, bonjour. Landry, vous êtes
bonjour.
Avec nous, bonjour. Alors, vous avez 27 ans, Landry. La solitude, eh bien, ça vous pèse depuis un certain temps. Est-ce que vous pouvez, pour qu'on comprenne un petit peu le contexte, nous expliquer comment ça se passait, ce lien avec les autres, ou l'absence de lien, quand vous étiez encore, quand vous viviez encore en famille ?
Ok. En fait, laisse-moi commencer par l'enfance, comment je l'ai vécu. Mes grands frères et moi avons vécu une enfance assez compliquée avec une éducation basée sur une croyance, je dirais comment que je qualifie de force, parce que nos parents nous évoquaient la religion pour nous séparer de nos amis. En fait, quand on rentrait à la maison, et que papa nous voyait avec un nouveau venu à la maison, donc il ne voyait pas bien. Il ne voyait pas de bonheur en ami.
Alors, je résume juste parce que la ligne n'est pas très très bonne, franchement. Hein. Les parents étaient méfiants à l'encontre des amis. Pourquoi, justement, vos parents n'avaient pas envie, finalement, que vous ayez beaucoup de liens avec l'extérieur ? Pourquoi ?
Ils nous expliquaient le fait que la mauvaise compagnie corrompt les bonnes mœurs. Et qu'ils ne veulent pas vraiment tout de même nous voir avec des gens, des amis de même âge, parce qu'ils sont mal intentionnés, ils vont nous nuire en notre bien-être spirituel. En fait, c'est ça d'où est venue la solitude. Là, vraiment, je me dis à présent libéré de mes parents, je suis loin de mes parents.
Excusez-moi, Landry, c'était pour des raisons religieuses, tout ça ? Il y avait une méfiance parce qu'ils étaient un petit peu, on va dire, rigoristes ? Ils suivaient la religion à la lettre ?
Ah oui, c'est ça. C'est, donc, ils nous évoquaient cela. Donc, c'était un prétexte. C'était ça. Ils nous invoquaient cela pour ne pas. Donc, c'était la religion qui était invoquée pour ne pas nous voir avec les autres.
Vous vous opposiez à vos parents en ce sens, ou finalement vous gardiez le silence et vous étiez dans le respect ?
En fait, on avait ce sentiment. J'avais moi-même le sentiment de ne pas croire ce qu'ils nous disaient parce que nous disons, on ne voit aucun mal. En fréquentant tel ou tel, parce qu'on le connaît très bien, c'est un ami donc il est bien, il a une bonne éducation, il a des parents qui tiennent à lui, une croyance qui est assez vraiment diabolique, je dirais, parce que vraiment c'est la société qui est émanée de cette éducation erronée jusqu'à présent, juste, je me dis, libéré de mes parents, de ce cercle vicieux, j'arrive pas à me faire d'amis, j'arrive pas à fréquenter des gens, donc je me retrouve toujours seul. C'est vraiment une solitude subie, pas décidée.
C'est subi. On entend, Landry, donc, vos parents vous ont mis dans un cocon complètement enfermé. Vous en avez souffert, vous en êtes sorti et aujourd'hui, pourtant, c'est encore compliqué pour vous de vous faire des amis. Anne-Victoire Rousselet, se faire des amis, établir un lien social, ça s'apprend quand finalement, on nous a mis des idées dans la tête, même si on n'y croyait pas. On nous a bourré le crâne en disant « Attention, l'extérieur, c'est dangereux, c'est corrupteur, c'est peut-être même le diable. » Finalement, il n'y croit pas franchement, Landry. Il a ses propres convictions, il a sa propre philosophie de la vie, mais il reste imprégné par tout ça.
Oui, parce qu'il y a un conditionnement important, c'est-à-dire qu'il a observé des choses, il a vu des choses et il n'a pas bénéficié de stratégies d'apprentissage que les parents vont reprendre au fur et à mesure. Quand tu t'es fâché avec un camarade, pourquoi, qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce que ça t'a fait au niveau émotionnel et au niveau comportemental et dans ta pensée, qu'est-ce que tu as pensé que ça voulait dire de toi, etc. Mmh. Et donc tout ce travail-là d'apprentissage, de conditionnement, d'aller vers l'autre, d'avoir confiance, Landry n'a pas pu le faire parce qu'il a eu un environnement qui, sous couvert de la religion, a isolé. Alors que, en règle générale, la religion est quand même un vecteur communautaire et de lien social. Donc, il y a des stratégies à apprendre. C'est-à-dire que c'est un défaut d'apprentissage. C'est-à-dire comme si vous n'aviez pas appris à compter, bah, c'est difficile de compter aujourd'hui.
Il faut faire des cours d'amitié.
Voilà, il faut faire des cours pour voir. Et alors, vous pouvez observer comment font les autres. Si vous observez les autres qui sont très sociaux, très à l'aise socialement, vous observez, puis vous essayez, vous reproduisez des choses et petit à petit, ça va venir si c'est accompagné d'une charge émotionnelle, c'est-à-dire de peur, de méfiance, un peu ce que vous avez évoqué, ce que vous avez rencontré dans votre éducation. Alors, c'est important de pouvoir l'évacuer, d'essayer de comprendre en quoi l'autre, son comportement, peut vous faire peur et de rediscuter avec l'autre pour pouvoir avoir cet échange un peu direct et spontané qui va lui permettre lui aussi d'ajuster son comportement à votre propre émotion.
Est-ce que vous conseilleriez à Landry de raconter à l'autre, hein, s'il est en confiance bien sûr, ce qui s'est passé dans son enfance, dire que finalement il est un petit peu nouveau en amitié et qu'il est en train d'apprendre, reconnaître un petit peu sa fragilité pour y aller en terrain d'amis? Justement.
Bien sûr, avec la limite que je mettrais, c'est-à-dire que en fonction des personnes et du degré d'intimité qu'on a avec les personnes, on va dire plus ou moins de choses. C'est-à-dire, on peut dire, moi, je découvre un petit peu le fonctionnement parce que j'ai évolué dans un environnement, un petit peu extérieur, un petit peu trop intérieur. Voilà, ça, c'est un peu pudique. Et puis, avec des amis un peu plus proches, on peut en dire un petit peu plus, dire que c'est quelque chose qui vous a pesé, qu'il y avait un interdit, etc., etc. Mais oui, en tout cas, avouer sa gêne et être très authentique sur l'émotion, ça aide l'autre à s'ajuster et à offrir le comportement qui va nous permettre d'être en confiance.
Voilà pour ces conseils. Landry, un grand merci pour votre témoignage. En tout cas, à la radio, vous avez bien établi le lien. Et très, très bonne journée en RDC. On parle des solitudes, des rencontres aussi au pluriel. Et on va en parler maintenant en images et en couleurs avec un grand livre, un grand beau livre. Vis-à-vis, c'est le titre de cet ouvrage que vous avez signé. Marguerite Boulanger, bonjour.
Oui, bonjour.
Alors, BD, je ne sais pas si on dit BD ou illustré, en tout cas, c'est publié chez Hachette Pratique. En tout cas, c'est un livre, on va dire, pour adultes, avec un titre à double sens, vis-à-vis, vie, existence, au singulier, au pluriel. Et puis aussi, on entend, quand on dit vis-à-vis, ça ressemble à ce qu'on peut lire notamment dans les annonces immobilières, sans vis-à-vis, sans voisin d'en face. C'est quoi le message que vous faites passer derrière cette ambiguïté volontaire du titre ?
C'était l'idée de reprendre évidemment le vis-à-vis de nos immeubles, quoi, parce que l'histoire se passe, l'héroïne elle est en ville, elle est à Paris, donc il y a cette idée de côtoyer les solitudes qui sont hyper proches, et en même temps de dire qu'en fait c'est un personnage qui va regarder des gens autour d'elle, et donc que les vies des autres, en les observant, en les questionnant, vont l'amener à s'épanouir plus dans sa vie à elle.
Se poser des questions sur ces personnes qu'elle croise. Beaucoup de solitude, des personnes seules. En fait, il y a beaucoup de têtes, mais chaque tête est séparée les unes des autres. Il y a des couleurs, du rose, du rouge, du noir, des aplats de couleurs. Est-ce que pour vous, l'illustration, la BD, c'est un moyen d'aborder finalement sans tabou un sujet délicat comme celui du jour, la solitude, la détresse et puis certains états d'âme ?
Oui, je suis d'accord avec ça. Après, vis-à-vis, moi, c'est un roman graphique que je n'ai pas fait avec l'intention d'en faire de la vulgarisation scientifique ou psychologique. C'était vraiment l'idée de prendre un témoignage, de faire un récit de soi qui permettait aux lecteurs et aux lectrices de s'identifier. Par exemple, l'héroïne du livre, elle est peu incarnée, en fait, quoi. Elle n'a pas de prénom, elle n'a pas d'âge. On sait juste que c'est une fille, qu'elle est assez jeune, adulte. Et ça, c'était une volonté que le lecteur ou la lectrice puisse s'en emparer.
Et si, éventuellement s'y identifier avec notamment exactement. Quelque chose d'important qu'on voit. Cette jeune fille, on l'imagine assez jeune. Et il y a la confrontation des générations. Sa solitude, à la limite, elle la supporte. Mais celle qui l'a fait énormément souffrir, c'est l'écartement de la vie sociale de sa grand-mère.
Ouais, je voulais que l'héroïne, elle soit pas seule, quoi. Enfin, en fait, elle a des interactions sociales, elle a une famille, elle a des amis, il y a une romance qui se dessine à la fin. Mais ouais, je voulais qu'elle soit ancrée dans la famille, donc de mettre la présence de cette grand-mère, qui en fait est assez absente, quoi, parce qu'elle a perdu la mémoire, donc elle est en maison de retraite. Et son lien avec l'héroïne, il est assez détaché, elles sont pas très proches. Mais pour autant, en fait, c'est deux solitudes qui sont hyper différentes et qui va finir par les rassembler à la fin.
Et à la limite, la jeune fille supporte mieux sa propre solitude que celle de sa grand-mère qui lui fait mal.
Ouais, c'est ça. Bah, c'est plus ça qui l'apaise du non-lien, quoi, en fait.
Et l'incompréhension familiale, parce que finalement, elle est entourée, mais ça n'empêche pas, c'est pas parce qu'on a une famille qu'on réussit à tisser des liens qui vont nous aider à nous renforcer et à protéger, y compris cette grand-mère vulnérable.
Oui, ça va être plus même, je sais pas, parce qu'on est nombreux, c'est pas parce qu'il y a du monde autour de nous qu'il n'y a pas de solitude ou qu'il n'y a pas tous ces questionnements-là. Et la grand-mère, elle a beau avoir toute une famille, elle avait été un peu été délaissée, quoi, à ce moment-là.
En tout cas, l'histoire n'est pas triste et c'est assez beau, hein, surtout ce grand support. Un grand merci à vous, Marguerite Boulanger, pour cette BD vis-à-vis publiée chez Hachette Pratique. Je me tourne vers vous, Anne-Victoire Rousselet. Ce support de l'image, de la bande dessinée, est-ce que c'est quelque chose que vous utilisez en consultation pour traiter certains sujets avec vos patientes, vos patients ?
Je peux, oui, je peux, notamment le sujet de certaines maladies. On va passer par ce support-là. Après, c'est un support que moi, j'aime beaucoup, j'apprécie beaucoup personnellement et qui, je pense, est vecteur de beaucoup d'émotions où on peut se projeter, où on peut s'identifier aussi, peut-être plus facilement. Et quand on est fatigué, fatigable, déprimé, par exemple, ça demande moins d'énergie psychique pour s'approprier l'information et pour l'intégrer.
Et c'est maintenant à Abidjan qu'on va retrouver une autre auditrice en ligne avec nous, donc de la Côte d'Ivoire. C'est Reine. Reine, bonjour.
Bonjour, bonjour Caroline, bonjour docteur.
Alors Reine, vous avez 29 ans. Pour vous, la solitude, ça a ses bons, ça a ses mauvais côtés. Est-ce que vous pouvez nous expliquer, Reine, dans quelles circonstances vous appréciez particulièrement d'être seule ?
Tout d'abord, je suis quelqu'un de très timide et j'aime rester seule parce que ça me fait du bien, j'ai envie de méditer. Mais parfois aussi, j'ai envie d'être avec les gens, mais je n'y arrive pas.
Vous n'y arrivez pas, pourquoi ? Parce que vous n'osez pas parler ? Vous avez finalement des territoires un petit peu secrets ? Qu'est-ce qui se passe exactement dans ce problème pour tisser le lien ?
Quand j'étais au lycée, j'avais des amis, mais après, on s'est séparés par jalousie. Et les gens m'ont fait beaucoup de mal.
Il y a eu de la déception, il y a eu de la trahison, Reine ?
Oui, oui.
Aujourd'hui, vous disiez que vous êtes plutôt timide, vous êtes plutôt seule. C'est perçu comment par votre entourage ? Est-ce que certains de vos proches critiquent cette réserve ?
Oui. Il le prend très mal, ils disent que je suis méchante, je suis quelqu'un de très mauvaise.
Quand on vous entend, vous avez beaucoup de réserves, y compris dans votre voix. On ne vous connaît pas, on parle à peine. Mais malgré tout, ce mot de méchanceté, c'est quelque chose d'extrêmement brutal. Vous le ressentez comment ? Vous êtes avec nous, Reine ?
Allô ?
Oui. Reine, quand vous dites quand la famille, quand l'entourage vous dit que vous êtes méchante parce que finalement vous êtes réservée, comment est-ce que vous percevez cette attaque ?
Très mal, ça me fait très mal.
Oui. Est-ce que vous arrivez à vous expliquer avec la famille ?
J'essaie, mais on ne me comprend pas. On ne me comprend pas.
Et ils viennent vers vous justement pour vous sortir du silence, de la réserve, ou ce ne sont que des critiques ?
Que des critiques. Personne ne m'aide. Que des critiques.
Et vous, aujourd'hui, vous aimeriez être aidée ? Vous aimeriez avoir des conseils ?
Oui, j'aimerais que, si je peux avoir une méthode, une technique pour sortir de là, parce que à tôt ou tard, j'aimerais travailler dans un domaine où je pourrais aborder les gens.
Mais aujourd'hui, dans votre vie de tous les jours, vous avez des liens avec l'extérieur. Vous faites quoi d'ailleurs? Vous occupez comment vos journées?
Je reste pratiquement à la maison. Je ne sors pas trop.
Vous avez essayé d'aller vers des associations, vers des groupes communautaires où il y a des jeunes gens qui défendent des causes, hein, il y en a partout. Bien sûr, il y en a en Côte d'Ivoire qui défendent les droits des filles, qui défendent l'accès à la culture, qui défendent, pourquoi pas, l'accès à la santé. Vous avez déjà essayé ces choses-là?
Non, je n'ai pas essayé.
Et ça vous intéresse ou pas trop?
Oui, ça m'intéresse.
Ah. Anne-Victoire Rousselet, je me tourne vers vous. J'ai donné des premières pistes à Rennes. C'est vrai que quand on va sur le terrain, on travaille avec toutes ces associations. Il y a plein de jeunes partout qui ont envie de faire des choses, qui ont envie de faire bouger les murs. Donc, c'est vrai que les rejoindre, c'est quelque chose qui est très simple, hein. On peut trouver très facilement sur Internet plein d'associations comme ça qui œuvrent pour les autres. Vous avez quoi comme suggestion pour Rennes qui le dit, elle souffre de cette solitude?
Rennes, moi, il y a une observation. J'entends dans ce que vous dites qu'il y a aussi eu des événements difficiles ou il y a peut-être un peu un traumatisme avec les relations sociales si vous avez été trahi, déçu, et on sait que quand on est jeune, à l'adolescence, ça nous marque particulièrement. Donc ce que Caroline proposait, qui est une très bonne idée, c'est ce qu'on va préconiser en thérapie d'ailleurs, c'est une exposition progressive, c'est retourner vers les autres, parce que si vous avez appris comment faire et que vous savez vous faire des amis, eh bien, il n'y a pas besoin de faire ça tout le temps, toute la journée, mais que ce soit via une association, que ce soit via une communauté de pensée, ou que ce soit dans les commerces, de l'entraide, vous pouvez, à raison de quelques heures par semaine, retisser du lien social et observer comment les autres font et progressivement vous désensibiliser, on va dire ça comme ça, apaiser votre émotion en vous préparant à l'avance et en vous assurant que même si certaines personnes peuvent faire du mal, la plupart des gens ne vont pas vous faire du mal. La plupart des gens peuvent être des gens sur qui vous pouvez avoir confiance. Je crois que votre famille n'est pas une ressource là-dessus. Ce que je comprends, c'est qu'ils ne vous comprennent pas. Donc, c'est compliqué de discuter de ça avec eux. En revanche, il y a peut-être des associations avec des gens qui vous ressemblent et qui pourront vous comprendre. Et nous, on appelle ça de l'anxiété sociale. Peu importe la raison, mais en tout cas, vous vous présentez d'une timidité ou de l'anxiété sociale. Et donc, ce qu'on préconise, c'est de s'exposer progressivement avec la situation la plus facile dans un premier temps, et puis progressivement d'aller vers des situations un peu plus compliquées.
Pas à pas. Merci beaucoup pour ce témoignage. Très, très bonne journée en Côte d'Ivoire, Rennes. On part maintenant pour le Togo.
RFI à Lomé, 91.5 FM.
En ligne, Jeannette Barma, bonjour.
Bonjour Caroline.
Alors Jeannette, vous êtes psychologue clinicienne au CHU Campus de Lomé, maîtresse de conférences de psychologie clinique et psychopathologie à la fac à l'Université de Lomé. Vivre seul, cultiver la solitude quand on vit dans un pays comme le Togo, est-ce que c'est quelque chose d'habituel ou pas du tout?
Non, je dirais pas du tout. Pas du tout. Quand on prend la société traditionnelle togolaise, la solitude n'est pas habituelle. Alors, cependant, avec la modernité, les familles deviennent de plus nucléaires et la solidarité sociale aussi s'effrite au profit d'un mode de vie individualiste. Mmh. Et c'est ça qui fait que de plus en plus, on observe des ressentis de solitude qui peuvent apparaître chez certaines personnes.
Est-ce qu'on observe des différences vraiment criantes en fonction du cadre et du lieu de vie? Je pense bien sûr ville ou campagne.
Oui, il y a des différences. Il y a des différences. La plupart du temps, en campagne, la solitude va être ressentie par les personnes âgées. Mmh. Alors, les enfants étant partis en ville pour chercher du travail, laissant les parents en campagne. Là, ces derniers, devenant de plus en plus vieux, deviennent aussi vulnérables et peuvent ressentir de la solitude.
Alors, excusez-moi, Jeannette Barma, il y a la solitude dans la société et puis il y a la grande solitude que vous pouvez parfois entendre lors de vos consultations. Est-ce que dans certains cas, il y a vraiment des solitudes qui vous alertent sur des problèmes de santé mentale?
Oui, tout à fait. Il y a des solitudes qui alertent quand on a un sujet qui dit qu'il n'arrive pas à sortir, il ne sent même pas l'envie de sortir et qu'il s'enferme de plus en plus, mais il vit un mal-être, oui, ça alerte sur sa santé mentale.
Sur quel type de diagnostic vous pouvez déboucher face à cette solitude symptomatique, on va dire ?
Généralement, ce sont des pathologies dépressives. Mmh. Et on peut également trouver certaines pathologies psychotiques. Mmh.
Est-ce que parfois, vous avez des personnes qui disent « je me sens très seule » alors que finalement, une fois que vous avez terminé l'entretien, vous vous rendez compte que ces personnes sont très entourées. Je veux dire, tout seul dans la famille, tout seul dans le groupe, finalement, le lien ne se fait pas.
Oui, oui, généralement c'est chez les jeunes, les enfants, les adolescents, qui disent se sentir vraiment seuls. Et généralement, c'est des sujets qui vivent une insécurité affective. Mmh. Ils sont en famille, mais ils se sentent vraiment seuls. Surtout pour les jeunes, parce qu'ils ne se sentent pas écoutés par les parents, qui ne comprennent pas leur façon de voir les choses ou leur façon de faire les choses.
Est-ce que ça va jusqu'à ce que ces jeunes, par exemple, se plaignent purement et simplement d'être rejetés ?
Oui, tout à fait. Il y en a qui se sentent carrément rejetés et qui pensent qu'ils n'ont jamais été désirés, qu'ils ne sont pas aimés par leurs parents.
Est-ce que dans ces cas-là, vous pouvez engager une forme de médiation familiale ou est-ce que c'est trop complexe ?
Généralement, c'est ce à quoi on pense au premier abord. On évalue d'abord la situation familiale pour voir dans quelle mesure on peut envisager cette médiation.
La médiation, vous l'engagez comment alors à ce moment-là ?
Oui, en ce moment, d'abord, on va faire un entretien avec les parents pour voir leur disponibilité à rentrer dans cette médiation. Au cas où on sent vraiment une hostilité, une difficulté à engager la médiation, alors le travail va se recentrer sur le jeune qui va apprendre progressivement à approcher ses parents, à s'adresser à ses parents ou à se gérer avec d'autres moyens sociaux.
On a entendu plusieurs auditeurs et vous, quand des patients viennent et vous demandent, Jeannette Barma, des conseils pour être moins seul, s'il fallait choisir, par exemple, on dit 3 conseils, vous leur diriez quoi ?
Alors, je leur dirais, le premier conseil serait de participer à la vie associative, par exemple. Mmh. C'est le meilleur moyen, à mon avis. Mmh. Parce que si un sujet n'arrive pas à approcher les autres, ce serait difficile. Mmh. Alors, s'il s'insère dans une association, quel que soit le type d'association, il peut quand même avoir un partage. Alors, le deuxième conseil, si je regarde le contexte togolais, ça peut être des groupes de loisirs, parce que ici souvent, il y a des groupes qui se forment pour faire l'activité physique, le sport, du vélo, par exemple le week-end, ça peut être un groupe comme cela. Mm-hmm. Et le troisième conseil serait d'apprendre à développer des activités de loisirs, même tout seul, qui peuvent aider à gérer ce sentiment de solitude.
Artistique, créatif, par exemple, j'imagine.
Oui, activité créatrice, du dessin, de la peinture, de la lecture, de l'écriture aussi, très souvent.
Des activités intelligentes, on va dire. Merci beaucoup, Jeannette Barma. Je ne vais pas faire une opposition directe à Anne-Victoire Rousselet pour ma dernière question. Je parlais des réseaux sociaux. Bon, j'ai fait quand même un petit peu un lien un petit peu méchant. Mais finalement, ce lien social avec les amis virtuels, on a l'impression finalement que c'est un amplificateur du sentiment de solitude.
Complètement, complètement, parce que déjà c'est un vecteur de comparaison important. Donc on compare évidemment sur les réseaux sociaux, on met plutôt des choses qui nous valorisent ou avec lesquelles on est à l'aise. Et puis finalement, on est seul avec ses émotions, on ne partage que des émotions positives. Les émotions négatives sont super importantes à partager parce que c'est là qu'elles nous permettent aussi de mieux connaître l'autre, d'approfondir la relation. Donc en effet, on sait que ces réseaux sociaux sont nuisibles, peuvent être utiles dans, dans certains contextes. Hein.
Pratiques, mais nuisibles.
Voilà. Et globalement, aujourd'hui, c'est très décrit. On le sait, on le lit. Toutes les études scientifiques vont dans le même sens. Il faut aller vers une réduction de ces réseaux sociaux et vers plus de vie. Concrète, réelle. Oui.
Il faut se parler. Merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions pour cet échange avec les auditeurs Anne-Victoire Rousselet. On va retrouver dans Priorité Santé dans quelques instants. Le docteur Solano sera juste après Ichon avec ce titre Souvent. Au revoir.
Au revoir.
Souvent, je me déteste. Qu'on sorte ce soir, je veux pas qu'on parle. J'ai quitté Paris pour pas qu'on me tente, mais je crois que c'est moi qui me cache. La vérité remplace ce que je cache. Mon taf prend vachement de place. J'ai tout raté, faut que je lâche, faut que je danse. Je suis dans ma folie en transe. Soit je me bute, soit je me laisse m'envoler. Seul le Seigneur peut me pardonner. La dépression me fait danser. Jamais plus j'aurais cru chanter. Souvent je me déteste. Je me sens comme une merde. Les gens me débectent. Je veux me cacher, je veux me perdre. Je suis écœuré quand je croise une glace. Mon flemme me nage, angoisse. Le doute fleurit et le vase se casse. Je me tâche, j'ai grave la poisse. Je dois mériter tout le mal que je porte. La mort m'adore, m'escorte. J'ai tout raté, faut que je lâche, faut que je danse. Je suis dans ma folie en transe. Soit je me bute, soit je me laisse m'envoler. Seul le Seigneur peut me pardonner. La dépression me fait danser. Jamais plus j'aurais cru chanter. Souvent je...
Et l'on parle sexualité maintenant dans Priorité Santé avec vous, docteur Catherine Solano, bonjour.
Bonjour Caroline Paré, bonjour à toutes nos auditrices et nos auditeurs.
Docteur Solano, sexologue, on va répondre avec vous à des questions d'auditeurs sur Facebook. Bien sûr, ces messages ont été adressés sur l'adresse de Priorité Santé. Il y a Marius. Il explique, Marius, que sa fiancée a subi une agression sexuelle il y a quelques années. Depuis, elle ne supporte plus que l'on touche en particulier la zone de son sexe. Elle a consulté un psychologue. Ça n'a pas vraiment amélioré la situation. Et y compris les médecins, hein, ils n'arrivent pas à la toucher lors d'examens médicaux, par exemple. Alors, aujourd'hui, Marius, cet auditeur, a besoin de conseils. Et en particulier parce qu'il a très envie d'épouser cette jeune femme.
Alors moi, je peux vous dire que je vois très souvent ce cas-là et je vais vous expliquer ce que j'explique et comment j'aide mes patientes. Et donc, je peux déjà préciser que cette réaction, elle est très fréquente après une agression sexuelle, hein, et souvent même pendant des années. Et donc, pour Marius, je vais lui dire, il y a une chose qui est essentielle, c'est que quand une femme a ce blocage, il ne faut surtout pas qu'elle se force elle-même et encore moins qu'on la force. Ça ne sert à rien de dire à quelqu'un, détendez-vous, laissez-vous faire, qu'on soit une infirmière, un médecin ou même qu'on soit l'amour. Si on lui dit « mais détends-toi », ben non, si elle pouvait se détendre, elle serait déjà détendue. Donc, en fait, la personne qui a un blocage, elle aimerait bien se détendre, elle aimerait bien faire l'amour facilement, donner des caresses en recevoir, mais c'est son cerveau émotionnel qui l'en empêche. Il se bloque et c'est pas du tout pour l'embêter. Il se bloque pour la protéger d'une autre agression sexuelle. C'est comme si le cerveau de la fiancée de Marius se disait « tu as souffert, je veux laisser personne t'agresser une deuxième fois et si quelqu'un essaye de toucher ta zone sexuelle, je bloque tout parce que moi, je veux te protéger. »
Alors là, pour répondre à la question de Marius, comment va-t-il pouvoir aider sa fiancée ?
Déjà, comme je disais, il ne faut surtout pas insister ou forcer, sinon son corps va se bloquer. Et donc, voilà l'exercice que je conseille en premier. C'est sa fiancée qui peut le faire toute seule. Donc, qu'elle s'entraîne à toucher sa zone sexuelle avec sa propre main. Par exemple, en prenant sa douche, en mettant du gel douche ou du savon sur sa main, tout simplement pour se laver. Ça paraît évident que tout le monde fait ça, mais non, parce qu'il y a des femmes qui ont un blocage, qui vont utiliser un tissu, un gant, parce qu'elles n'arrivent pas à toucher cette zone qui a été agressée avec leurs mains. Et forcément, c'est plus facile de le faire soi-même parce que votre cerveau, il sait que vous n'allez pas vous faire mal. Donc, pour y parvenir, il faut le faire tout doucement, petit à petit. Ça peut commencer, par exemple, par poser la main à plat sur le pubis quelques secondes avant de se laver ou avant d'aller dormir. Puis la pulpe d'un doigt tout près des petites lèvres jusqu'au côté du sexe. Et puis une ou deux secondes seulement. Le poser plus longtemps, puis s'approcher de la zone sexuelle jusqu'à arriver entre les petites lèvres, et ça très doucement. Dès qu'on se sent angoissé ou stressé, on arrête et on recommence, et petit à petit, on arrive à apprivoiser cette zone soi-même.
Pour autant, docteur Solano, alors si la personne, hein, si la jeune femme qui a été agressée y parvient, ça ne veut pas dire pour autant que son partenaire lui pourra la toucher, ni d'ailleurs un médecin.
Voilà, tout à fait, Caroline, c'est une première étape seulement. Et la deuxième étape, ça sera à son mari de faire la même chose progressivement. Donc de poser sa main sur la peau, par exemple sur le ventre, et de lui dire « Est-ce que tu te sens bien quand je pose ma main là ?» Si elle dit oui, bah, il descend un petit peu. Et jusqu'au moment où elle se sent un petit peu stressée. Et là, il laisse sa main, il ne va pas plus loin, il reste une minute, deux minutes, le temps que le corps s'habitue. Et s'il le fait plusieurs fois, il pourra s'approcher progressivement de la zone sexuelle et y arriver à la toucher, parce que le corps de cette jeune femme va finir par être rassuré. Pourquoi il sera rassuré? Parce que quand elle dit stop, il arrête. Et le corps se dit, bon, lui,
il respecte.
Okay,
il respecte.
Oui, il respecte, exactement. Et il va se détendre progressivement.
Alors, ça veut dire que petit à petit, il va y avoir un contact possible avec la zone intime. Ça veut dire que le blocage, il faut beaucoup de patience, mais le blocage va pouvoir se lever.
Voilà, et ça se fait progressivement. Moi, j'appelle ça l'apprivoisement de la zone intime. Et j'ajoute que la psychothérapie en parallèle, c'est important. Et même si cette jeune femme dit, pour l'instant, ça ne m'a pas aidée, je dis à mes patients, c'est comme les deux bouts d'un tunnel. Hein. La psychothérapie, c'est comme si on creusait le tunnel d'un côté, les exercices de l'autre.
Et ben, ça se rejoigne
beaucoup plus vite que si on part que d'un côté. Donc, ça, les deux cèdent. Et alors, quelque chose qui est très important pour moi, c'est que avant de faire ces exercices, juste quand cette jeune femme se dit « Bon, je vais prendre ma douche, j'en profite pour faire mon exercice », je vais lui conseiller de fermer ses yeux et de parler à sa vulve, dans sa tête. De lui dire ceci « Ma chère vulve, je sais que tu as subi une agression et j'en suis désolée. Tu as raison de vouloir me protéger, de te méfier. Mais maintenant, je vais faire un exercice pour t'aider à trouver ton harmonie. Je vais m'entraîner à te toucher. Je vais demander par la suite à mon chéri de te toucher délicatement. Et je vais te demander de faire ce que tu peux pour accepter ces contacts. Parce que c'est quelqu'un que j'aime, avec qui je suis en sécurité. Donc, fais de ton mieux pour l'accepter et peut-être même pour apprécier ce contact. Quand c'est trop difficile pour toi, tu m'envoies un petit message pour me dire stop, on arrêtera. Et quand on fait cet exercice
de réconciliation
avec soi, et ben le corps, il comprend et petit à petit, on se débloque et plus vite que si on lui parle pas.
Et ben voilà, en parler, c'est toujours mieux. Un grand merci à vous, docteur Catherine Solano, et à très bientôt dans Priorité Santé. Notre émission qui touche à sa fin, merci à toute l'équipe qui chaque jour la fabrique, la réalise. Ophélie Lassen, Louise Caledet, Didier Bleu, Tom Malky, Annelle Lanoé. Demain, émission Questions de femmes. On va parler des différentes étapes de la grossesse. 9 mois, développement de l'embryon, de ses organes. Et pour la mère, les changements physiques et émotionnels. Vos questions, un spécialiste à votre écoute. Ce sera le gynécologue obstétricien, le docteur Abdoulaye Diop, qui sera avec nous. On se donne rendez-vous demain. Et bien sûr, d'ici là, portez-vous bien.
C'était Priorité Santé avec la BICIS, Banque internationale pour le commerce et l'industrie du Sénégal, qui rejoint officiellement le groupe Sounou.